Ah, Pascal, j'aime ça parler avec des personnes inspirantes comme Laurent Dubreuil.
En plus, quand elles ne le savent pas.
C'est ça.
Ça ajoute tellement, mais l'enjeu de faire en sorte que le sport soit pas une corvée, là, je trouve que c'est un point important pour les
oui,
jeunes.
Oui, vraiment.
Puis lui, il dit, ben, au moment que ça devient compétitif, c'est peut-être là où ça peut switcher, mm-hmm. puis qu'il faut faire attention. Parce qu'aussitôt que tu as du plaisir, là, tu t'en rends pas compte, puis tu continues, puis tu bouges.
Du tout. On a la journaliste du Soleil, Victoria Barry, qui est avec nous pour nous parler là, justement de cette enquête publique du coroner Luc Malouin concernant la disparition et la mort tragique de Maëlle. Luguez. Mais avant ça, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Bien, dans les dernières minutes, ce qu'on apprenait, c'est que Québec veut sa part des millions de dollars qui ont été annoncés par Ottawa. On tire la couverte un peu vers nous pour essayer de former des travailleurs dans le milieu de la construction. On sait que c'est pas facile. On est loin des passes d'armes du passé. On veut une collaboration avec le gouvernement Carney là-dedans. Puis on veut surtout notre part, comme je vous disais. Donc, le gouvernement fédéral qui a prévu investir 6 milliards de dollars sur 5 ans. Ça, c'est pour le pays au complet. Parce qu'on veut attirer 80 000 à 100 000 jeunes dans les métiers spécialisés de la construction. Bon, au Québec, ça pourrait être 200 millions de dollars que ça représente là, pour cette année. Mais le gouvernement Fréchette n'a pas réclamé un transfert sans condition. C'est souvent ça, là, dans le cas des chicanes de compétences entre Québec et Ottawa. Puis pour le ministre Jean Boulay, ben, il prône la discussion. Donc, il dit que c'est important de continuer de parler avec Ottawa. On veut s'assurer de bien comprendre les intentions. Cet argent-là va bénéficier à qui? Les partenaires, ce sera qui, dans quelles conditions, en fonction des intérêts, des ambitions. Tu sais, on veut vraiment que ce soit aux couleurs du Québec, en fait. Puis c'est ce qui est un petit peu demandé là, au niveau de la province. Sinon, ce qu'on apprenait aussi de la part de la CAQ aujourd'hui, c'est que la première ministre Christine Fréchette a annoncé une baisse d'impôts. C'est 75 000 petites entreprises qui vont en profiter. Donc, c'est ce qu'a appris la presse. On note que la mesure n'était pas inscrite dans le dernier budget provincial qui était déposé en mars. Puis aussi, c'était pas parmi les promesses faites par Mme Fréchette lors de la course à la chefferie. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu surpris. Allègement fiscal qui va permettre environ d'économiser 5 000 $ par année à ces petites entreprises-là. C'est pas tout le monde qui est comme « yes » parce qu'on voit en arrière ce que ça implique aussi. Toujours selon la presse, le coût de la baisse d'impôts sera annoncé. Là. C'est évalué à 30 millions de $ par année en cours, puis ça devrait atteindre 230 millions de $ en 2030-2031. Si vous voulez reprendre la chronique de Gabriel...
Oui, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Ça sera sur le blvd.fm après l'émission.
On a aussi parlé avec lui de tout ce qui est finances au niveau fédéral. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, qui présentait hier sa mise à jour économique. Ça, c'est pour le gouvernement de Mark Carney. En gros, c'est un déficit qui sera un petit peu moins gros que celui prévu, mais il est tout de même immense. Alors, il va s'établir à 66 milliards de dollars au lieu de 78 000 milliards de dollars. On essaie d'avoir un équilibre entre les dépenses de fonctionnement puis les revenus qui doivent toujours être atteints pour 2028-2029. Donc, là-dedans, c'est des enveloppes qu'on apprenait comme entre autres renforcer le système sportif dont on vient de parler pour 755 millions de dollars. On a parlé avec Claudia Boucher pour les chauffeurs incorporés aussi. Vous pouvez reprendre l'entrevue après l'émission. Mais en gros, ce qu'on apprenait, c'est qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, pourquoi? Parce que ceux qui s'occupent au fédéral de faire avancer cette cause-là, des chauffeurs à rabais, puis essayer de trouver, bon, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis sont où les stratagèmes négatifs, mais sont aussi pris en photo dans des symposiums avec les gens qui ne sont pas respectés les règles du camionnage. Donc là, on essaie de faire un peu la part dans tout ça. Et le dossier santé numérique est revenu dans l'actualité, puis je pense que ça ne prend pas assez de place aujourd'hui. Mais le docteur Daniel Vien, c'est un médecin spécialiste en diagnostic qui est dans le traitement des maladies complexes, qui a dénoncé dans le Journal de Québec que le déploiement va entraîner des retards dans les traitements et les suivis de cancer, chose qu'on demande du côté de Santé Québec. On pense qu'il n'y aura aucun retard de prix. C'est un projet pilote qui va être instauré tranquillement, pas vite, mais il y en a sur le plancher qui s'inquiètent encore. Le déploiement est toujours prévu pour le 9 mai prochain. En terminant, au responsable du Pentagone qui vient d'évaluer le coût de l'opération militaire américaine en Iran à 25 milliards de dollars américains. C'est la première estimation qui a été fournie publiquement. Puis ça veut dire quoi, Jeff? Ça veut dire qu'on est dans les 400 millions de dollars par jour.
410 millions de dollars par jour. Et Donald Trump s'est fait élire en promettant de ne pas s'occuper de guerre qui n'était pas la sienne, donc en promettant de ne pas investir dans la guerre en Ukraine. Je dis ça, puis je dis rien. Au sport, Bruins de Boston et Oilers d'Edmonton ont sauvé leur peau hier. Les Bruins, victoire de 2-1 en prolongation sur un superbe but de David Pastrnak. C'est maintenant 3-2 dans la série pour les Sabres. Les Oilers d'Edmonton l'ont emporté facilement 4-1 sur les Ducks d'Anaheim. grâce à deux buts de Leon Draisaitl. C'est 3-2 Ducks dans cette série. Le Wild du Minnesota a pris les devants 3-2 dans cette série contre les Stars de Dallas, notamment grâce à une belle performance de Kirill Kaprizov de 3 points, un but, deux passes. Évidemment, ce soir, le Canadien de Montréal sera en action 19h contre le Lightning de Tampa Bay, cinquième match de la série. On va en parler en fin d'émission avec Alex Laramé. Au basketball, les Raptors vont être en action également 19h30 ce soir pour leur cinquième match contre les Cavaliers de Cleveland. C'est 2-2 dans la série. Et les Jays de Toronto, le jeune lanceur de 22 ans, Trey Savage, était de retour hier de sa blessure. Premier départ de la saison. Aucun point accordé en tout près de 6 manches de travail. Victoire des Jays 3-0. Pascal, évidemment, on a parlé d'une bonne nouvelle là, avec des investissements en sport, mais il y en a une moins bonne à l'heure actuelle dans la région de la Capitale-Nationale, et c'est cette enquête publique du coroner Luc Malouin concernant la disparition et le décès de Maïline Lugaise. Ça s'était passé le 6 novembre 2024. Elle est décédée à l'âge de 13 ans. Et pour en parler avec nous, on a la journaliste Victoria Barry qui couvre le tout sur le terrain à l'heure actuelle. Elle est journaliste pour le journal Le Soleil. Victoria, comment vas-tu?
Salut, ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Victoria, je disais qu'hier, la police, le SPVL, la police de Lévis, en a pris pour son rhume avec le coroner Malouin qui s'est même permis une envolée éditoriale. Et là, ce matin, on a questionné avec beaucoup de véhémence le fait qu'on avait arrêté les recherches à un certain moment donné. Je ne me rappelais pas de ça.
Oui, exactement. Bien, en fait, Maïline a été portée disparue vers 13h42 le 6 novembre. Et puis, les recherches terrain ont tout de suite été enclenchées là, pendant de longues heures. Mais vers 21h30, il n'y avait toujours pas de nouveau développement. On avait fait le périmètre de 300 mètres qui est standard là, dans des disparitions comme ça. Puis, il y a eu des discussions. C'est toujours pas super clair qui a pris la décision finale, mais le poste de commandement a été levé vers 21h30, puis les recherches terrain ont cessé pour la nuit, ont repris le lendemain matin.
OK, donc il y a eu cette période de tampon-là. Et là, hier, on a critiqué aussi le fait qu'on a fait des recherches dans le quartier résidentiel, mais on s'est jamais intéressé au boisé où Maïline a été retrouvée.
Oui, c'est ça, parce que sur la caméra de sécurité, là, où on voit le dernier endroit où Maïline a été aperçue, on la voit sortir de l'école, puis qui semble se diriger vers un quartier résidentiel. Puis comment ça fonctionne, c'est que ce point-là est pris, là, puis on fait un rayon de 300 mètres. Ce rayon-là n'incluait pas le boisé dans lequel elle a finalement été retrouvée. Là. Ça incluait seulement un tout petit boisé qui était sur le terrain de l'école, puis un quartier résidentiel. Donc, on a vraiment concentré les recherches là-dessus. C'est le lendemain qu'on a décidé d'élargir un tout petit peu le périmètre, puis on l'a retrouvé là, à seulement 550 mètres.
Qu'est-ce qui est déploré en cours jusqu'à maintenant? C'est qu'on a suivi les lignes peut-être trop fermé, trop préétabli d'un protocole encore? Comme un, je dis encore parce que c'était un peu ce qui avait été reproché dans le cas de les petites carpentiers.
C'est ça. Bien, pour le moment, on n'est pas encore à l'étape des recommandations. Donc, le coroner se permet quelques commentaires, mais il n'y a pas de prise de position en tant que telle. Mais c'est sûr qu'il pose beaucoup de questions sur la raison pour laquelle les recherches ont cessé, pourquoi on n'a pas vérifié le boisé. Il y a des guides de pratique là, du SPVL qui demandent de vérifier dans un rayon de 1 km, tous les sentiers, tous les endroits reculés. Puis ça, ça n'a pas été fait au complet. Là, les policiers se défendent en disant « c'est énorme, un rayon de 1 km. On a vérifié des endroits stratégiques. Mais est-ce qu'on a passé au peigne fin là, tout le boisé puis tous les chantiers? Non. »
Est-ce qu'on revient à la collaboration dans les questions entre les divers corps policiers dans ce cas-là de disparition, oui. Comme souvent ça se fait là, dans ce genre de dossier-là?
Oui, c'est ça. Bien, ce qu'on croit comprendre dans ce dossier-là, c'est que la Sûreté du Québec est venue en assistance le lendemain, donc le 7 novembre. D'ailleurs, la sergente de la Sûreté du Québec va s'exprimer cet après-midi. On ne l'a pas encore entendu. Mais la Sûreté du Québec était seulement un consultant. Donc, de ce qu'on comprend, ce n'était pas eux qui avaient la responsabilité de prendre les décisions sur la manière de procéder aux recherches, mais on va en savoir plus cet après-midi.
Le sergent Pascal Bragagnolo, qui était responsable justement des recherches, explique qu'avant aux alentours de 21h qu'on a décidé d'arrêter les recherches sur le terrain. C'était pour relâcher la pression et faire en sorte que la jeune fille sorte de sa cachette. Comment le coroner réagit à ça lorsqu'il l'entend, ceci?
Le coroner dit que c'est logique parce que c'est une stratégie qui est employée dans des cas de fugue, vraiment. D'accord. Souvent. Mais la particularité avec ce cas-là, c'est que c'est pas un cas de fugue parce que la jeune fille avait pas l'habitude de fuguer. C'était pas une jeune fille qui était en consommation. C'était vraiment un profil d'une jeune fille qui avait des idées suicidaires. Donc, est-ce que c'est le protocole pour ce type de cas-là? Peut-être pas, mais ça peut être une stratégie qui est employée là, par les policiers.
J'aimerais ça qu'on revienne justement sur ces idées sombres-là parce que ça a teinté beaucoup la semaine. Sur le fait aussi qu'on revient avec une enquête du coroner. La première fois, on disait, bon, mort accidentelle pour la jeune fille. Là, on revient, puis c'est la première fois qu'on met sur la table ces idées sombres-là, si on va le nommer, là, suicidaire. Ça a un peu saisi tout le monde, c'est ce qu'on comprend. Comment tu l'as vu et vécu, toi, à l'interne, avec tous les acteurs de l'enquête en ce moment?
Oui, parce qu'il faut le mentionner, les parents sont présents là, tout au long de l'enquête. Avec leur conjoint, il y a le frère de Maëline qui est présent également. Puis, c'était connu là, dans sa famille qu'elle avait des idées suicidaires. Elle a déjà été hospitalisée pour ça. Puis même la veille de sa disparition, il y a eu une intervention d'urgence parce qu'elle cherchait un exacto pour faire de l'automutilation. Donc, c'était connu par sa famille, mais le nouvel élément qui a été apporté dans l'enquête, c'est l'existence du fameux texto là, dans lequel, le matin de sa disparition, elle mentionne à une de ses amies vouloir en finir, dire que c'est pas comme les dernières fois, qu'elle est à deux doigts de s'enlever la vie. Donc ça a vraiment été un gros développement dans l'enquête publique parce que ce texto-là ne figurait pas dans le rapport policier. Ce texto-là n'a pas été pris en compte par la coroner parce que la coroner se basait sur les rapports policiers. Donc ça a été un développement majeur, puis on a réussi à l'obtenir dans l'enquête puis à le consulter, à le déposer en preuve.
Ses parents sont présents, notamment son père. Comment ils réagissent à tout ça?
Ses parents, pour le moment, sont très impassibles. T'sais, ils ne réagissent pas beaucoup.
Je pense que son père prend beaucoup de notes.
Oui, son père prend beaucoup de notes. Son père, c'est lui qui avait livré la bataille là, puis qui avait dénoncé les conclusions du rapport dans les médias. Donc, son père prend beaucoup de notes, puis les parents vont témoigner lundi prochain lors de l'enquête. Donc là, on va pouvoir les entendre. Puis également, la conjointe du père, qui, elle, est peut-être un petit peu plus émotive parce que ça a été mentionné là, comme quoi c'était une confidente un peu de la jeune fille.
Dit la conjointe du père, donc c'est
oui,
la belle-mère.
La belle-mère, c'est ça. T'sais, elle était au courant de ses idées suicidaires. Elle en avait discuté avec elle. Donc, c'est certain qu'on se met à sa place. Ça doit être difficile d'entendre, de réentendre tout ça en se disant « J'étais au courant de ça, puis il y a quand même un drame qui est arrivé. »
Un peu un sentiment de culpabilité, j'imagine, face à ça.
Tout à fait.
Malheureusement, un sentiment qu'il ne faut pas qu'elle ressente parce que je suis certain qu'elle a fait le maximum. Victoria, merci beaucoup pour cette mise à jour. On se tient au courant. On pourrait se refaire une petite mise à jour mardi prochain après le témoignage des parents.
Et ça va me faire plaisir.
Ça te convient? Cool. Merci beaucoup d'être passé en studio avec nous à Boulevard 102.1. Courte pause à l'émission On en jase. Par la suite, on va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard de cette fameuse culture de l'annulation, cher Pascal, et de ce débat sur... le taux de natalité au Québec qui fait rage. Il y en a qui disent qu'on veut prendre en otage l'utérus des femmes et que Paul Saint-Pierre Plamondon est à la tête de ce mouvement. C'est ce qu'on va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard, ex-rédacteur des discours de François Legault. Il faut que je te fasse entendre également un bijou d'hymne national, mais un bijou dans le bon sens. Quelque chose qui, hier, j'ai vu en temps réel, puis en tant que patriote canadien, j'avais la larme à l'œil. Je te présente ça au retour de la pause.
Je pense que je le sais, c'est quoi.
Ah ouais.